Bonjour! Oui, bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Incroyable! Bienvenue dans ce stream de la vacuité! Bah, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a toujours pas de QAG. Voilà, il n'y a pas de question au gouvernement. Il n'y a toujours pas de question au gouvernement. C'est les vacances. L'Assemblée nationale est en congé. Donc nous, on est démunis. On est là, on est dans l'expectative, on est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sans QAG? Quand même terrible. Je voulais que je vous dise, profite des vacances, hein. Pourquoi ils sont en congé encore? Bah, ils sont en congé parce qu'il y a des semaines de, il y a des semaines de suspension des travaux à l'Assemblée nationale, voilà, les vacances. Petit avion est aussi en vacances. Ouais, non, pas de flight simulator en ce moment. Je vais reprendre un jour, hein, c'est sûr. Hein, mais là, pour l'instant, je suis sur autre chose. Mais non, je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait posé comme question au gouvernement s'il y avait eu des QAG? Si vous étiez député, vous, qui avez toujours raison là, qu'est-ce que vous auriez posé comme question au gouvernement sur des sujets d'actualité? Le salon de l'agriculture. Ah, le salon de l'agriculture. Alors, hein, qu'est-ce qu'on fait pour les agriculteurs? Alors, voilà. Les relations avec l'Algérie, ouais, les relations avec l'Algérie. Betaram, ouais, Betaram, toujours. Pour voir si François Bayrou change encore de version, je sais pas, on sait jamais, peut-être nous inventer des trucs. Je ne connaissais pas l'existence de Notre-Dame de Bétharram. Je ne connais pas le Béarn. Jamais entendu parler de cette région. Je ne connais pas. L'Ukraine, ouais, bah ouais, l'Ukraine, ouais, la visite de Macron à Trump, à Washington. Que faire face à Trump? Bah ouais. Musk a demandé à toute l'administration ce qu'elle faisait réellement. Est-ce qu'on peut faire pareil? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces fonctionnaires-là? Qu'est-ce qu'ils branlent? Moi, je vois de là où je suis, pas l'impression qu'ils fassent grand-chose, hein. L'Algérie aussi avec l'attentat. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Apparemment, les Ricains, ils adorent Macron juste parce qu'il a dit des dingues devant Trump. Ouais, j'ai vu qu'aux États-Unis, la sortie d'Emmanuel Macron avait beaucoup tourné. Alors, surtout chez les démocrates, hein, chez les anti-Trump. Mais ouais. Emmanuel Macron qui dit ses quatre vérités à Trump devant lui. Enfin, qui. Non, il n'a pas dit ses quatre vérités. Mais il l'a empêché de dire une fake news. Je suis fonctionnaire et j'ai rien foutu cette semaine. Je suis prof en vacances, calmez-vous. Qu'est-ce qu'ils font les fonctionnaires pendant leurs vacances, hein? On a le droit de savoir. Les Français ont le droit de savoir. Ils y vont. Je veux savoir. On peut parler de Cyril Hanouna et de son arrivée sur Twitch. Inquiétant, non. Cyril Hanouna vient sur Twitch! Il a dit qu'il avait un projet de créer une chaîne, mais j'ai jamais entendu que c'était une chaîne Twitch. T'as entendu ça, toi? C'est possible, hein, c'est possible, mais moi j'ai jamais entendu ça. Non, j'ai l'impression que personne n'a jamais entendu ça à part toi, donc ça me rassure. Enfin, ça me rassure, j'en sais rien, si ça se trouve, il va venir sur Twitch, hein. On fait un raid, allez, ça part en raid. Touche pas à mon prime. Pourquoi il n'y a pas de question au gouvernement cette semaine, une annulation de Bayrou? Non, le Premier ministre n'a absolument pas les moyens d'empêcher l'Assemblée nationale de tenir des séances. Ça, faut pas déconner non plus. Et non, c'est juste que c'est une semaine de vacances à l'Assemblée. Du tout. Y a pas Assemblée cette semaine. Il n'y a pas école. Ouais, c'est ça, il n'y a pas école. Est-ce que t'as vu le passage de Jean-Michel Apathy qui fait débat? Oui, j'ai vu Jean-Michel Apathy, c'était sur RTL, c'est ça? Jean-Michel Apathy dans une émission à la radio qui dit que la France a commis plein de crimes pendant la colonisation de l'Algérie, des oradours sur glane, et tout le monde autour du plateau le regarde en disant mais comment ça, comment vous pouvez dire que les Français ont fait des trucs de nazis? Et Jean-Michel Apathy qui dit non mais les Français ont pas fait des trucs de nazis, les nazis ont fait des trucs de Français, c'est pas pareil. Et vraiment, tout le monde le regarde éberlué en disant mais comment ça? Mais je croyais que c'était bien la colonisation. Je croyais qu'on avait apporté la civilisation à des sauvages. Et l'autre, il dit qu'on aurait commis des crimes. Oh, n'importe quoi. Et l'autre, eh. Mais ça va, hein? Voilà. Et d'ailleurs, Éric Ciotti, toujours lui, Éric Ciotti a demandé à l'ARCOM d'interdire Jean-Michel Apathy à la radio. À cause de ça. Éric Ciotti qui avait demandé la suppression de l'ARCOM. Ouais, on n'est jamais une blague de plus, hein, mais il faut supprimer l'ARCOM, ça sert à rien, mais je demande quand même à l'ARCOM d'agir. Bon. La fameuse liberté d'expression. Il a demandé à l'ARCOM de supprimer l'ARCOM. Ouais, on en est là, ouais. Donc oui, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, pour ceux qui le savaient pas, on ne sait jamais, mais la colonisation de l'Algérie par la France a été particulièrement violente, extrêmement éloignée de tout ce qui est respect des droits de l'homme ou je ne sais quoi, hein, c'était d'une brutalité sans nom, et l'armée française a commis des massacres de masse en Algérie, le massacre qui était d'ailleurs la méthode du maintien de l'ordre colonial par la France, mais pas seulement, dans ses colonies. Donc ouais, non. Donc tu dis que Jean-Michel Apathy a donc raison? Ah oui, Jean-Michel Apathy a raison de rappeler des vérités historiques, des faits historiques sur la brutalité et la criminalité de la colonisation de l'Algérie. Il a raison, mais faut pas le dire. Bah non, faut pas le dire. Après, c'est compliqué de dire qu'on a fait des crimes contre l'humanité vu que la notion n'existait pas encore. Oui, je sais, c'est un débat historique et juridique sur peut-on qualifier de crimes contre l'humanité des exactions qui ont eu lieu avant que la notion de crime contre l'humanité existe. Vieux débat. Pareil pour le mot génocide, d'ailleurs. Des villages entiers complètement éliminés, oui, bien sûr. Des massacres de villages. Des fumigations aussi dans les grottes en Algérie. Pour tuer les personnes qui s'étaient réfugiées dans des grottes. Qu'est-ce que la fulmixion? Alors le mot exact, je crois que c'est fumigation. C'est-à-dire C'était une technique qui consistait à allumer des feux à l'entrée des grottes dans lesquelles s'étaient réfugiés des civils qui fuyaient les exactions de l'armée française. Et on allumait des feux, on faisait cramer des trucs pour que la fumée tue à l'intérieur de la grotte les gens qui s'y trouvent. Technique qui a été utilisée en Algérie par la France. La grotte de Dara, ouais, ça je me souviens. Je suis conseillère en insertion pro. J'ai un rendez-vous cet après-midi avec une militante RN qui cherche un poste en com et qui se demande pourquoi elle ne trouve pas. Si ça n'a pas un lien avec son engagement politique, j'avais besoin d'extérioriser. Courage. Courage. Mais soyons lucides, hein, les amis, vous comme moi. Le fait que vous comme moi ayons assez peu conscience de la réalité de ce qu'a été la colonisation de l'Algérie n'est pas innocent. C'est même un peu normal, puisque la France a un rapport complexe avec son histoire en Algérie, et que toute cette partie-là de l'histoire est assez peu... enseigné, en tout cas a été assez peu enseigné. Je sais pas quel est l'état actuel de l'enseignement, mais il y a toute une génération, c'était pas le cas de la mienne parce que j'étais plutôt plutôt moderne. Moi, je suis années 90, années 2000. Les générations précédentes, il y en a encore un paquet à qui on a expliqué que la colonisation était un bienfait formidable de la part d'une France républicaine et lumineuse qui allait apporter la civilisation à des pays en demande. Bon, ça a un peu changé hein, quand même, mais on n'en est pas encore à connaître précisément ce qui s'est passé. Il y a une place importante dans les programmes d'histoire actuelle, la colonisation en première, et la guerre d'Algérie et ses mémoires en terminale. C'est très bien ça, très très bien. Moi j'ai eu assez, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu un cours d'histoire sur la colonisation. J'ai eu un long cours d'histoire, je m'en souviens très bien, sur la décolonisation, ça c'est vrai. Les processus de décolonisation par étapes, etc. Les différents pays, les dates, j'ai appris par cœur des dates d'indépendance des pays, etc. Ça je me souviens assez bien, ouais. Mais processus de colonisation, assez peu. La traite négrière, ça je m'en souviens très bien. Le commerce triangulaire et tout, ça on avait appris, ouais. Mon prof d'histoire m'a expliqué que pendant un moment, on refusait de nommer la guerre d'Algérie comme telle pendant très longtemps. Ah, mais évidemment, bien sûr. Pendant la guerre d'Algérie, à peu près personne n'utilisait le mot guerre. La France n'était pas en guerre. Absolument pas. La France n'était pas en guerre. La France rencontrait des difficultés dans un de ses départements, dans plusieurs de ses départements. C'est une affaire interne à la France, puisque l'Algérie était française, et ça ne regarde pas les autres. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une fois où l'Assemblée générale des Nations unies avait voté une résolution qui condamnait les actions de la France en Algérie, et la délégation française s'était levée et avait quitté l'Assemblée générale des Nations unies, en disant c'est absolument intolérable. Ça ne regarde pas les Nations unies, c'est absolument pas une affaire internationale, c'est un truc interne à la France, ça ne regarde pas. C'est chez nous, voilà, c'est notre problème. Il se passe des trucs en Algérie, oui, c'est possible. Mais on s'en occupe, on gère. Donc, non, la notion de guerre d'Algérie est une notion qui s'est imposée après. Et sur le moment, on parlait des événements en Algérie, on parlait d'émeutes, on parlait d'assassinats, d'opérations de pacification, on utilisait plein de mots. Voilà, c'était pas une guerre. Hein. Mais c'est exactement comme l'opération spéciale de Vladimir Poutine. C'est pas une guerre. Oh non, pas une guerre. C'est une opération spéciale. Voilà. Puis de toute façon, vu que l'Ukraine n'existe pas et que ça fait partie de la Grande Russie, techniquement, c'est un peu intérieur, d'ailleurs. Ça vous regarde pas trop. C'est un peu ça, hein, la justification. Ça a changé les OPSP, ouais. J'ai fait ma primaire en Algérie et je peux te dire que la guerre d'Algérie là-bas, on la prend petit et pendant des années, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Bah d'ailleurs, il serait étrange qu'on l'apprenne pas. Comme nous et la Révolution. Ah bah comme nous et la Révolution. La Révolution française. La Révolution française. Vous comme moi, on en a un souvenir, on en a une mémoire plutôt positive. La Révolution française, c'est enfin la fin de l'absolutisme royal et l'avènement de la République qui impose une lecture progressiste, humaniste, égalitariste, libérale, etc. Voilà, la Révolution française, c'est positif dans l'état d'esprit des Français. Bon, la réalité historique de la Révolution française, c'est que c'est quand même une putain de guerre civile, hein. On n'utilise jamais ce mot en France pour parler de la Révolution française. Mais c'était une guerre civile. C'est absolument terrible, hein. C'est pas marrant, hein. Guerre civile et guerre extérieure aussi. Ça, on l'apprend un peu plus. En plus, après, il y a Napoléon et tout, machin. Donc là, on apprend les batailles, les machins. Donc ça, on sait que c'était une période guerrière, mais c'était une guerre civile, hein. Mais on n'utilise jamais ce mot-là. Non, non, on dit la révolution avec un R majuscule, la grande révolution, la belle révolution française, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut revoir l'histoire de la révolution et tout. Je vous invite juste à garder en mémoire, justement, l'importance de la mémoire, qui n'est pas la même chose que l'histoire, et la manière qu'on a de se représenter les faits. Donc voilà. L'histoire est toujours très très nuancée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme vous connaissez cette maxime qui m'a toujours énervé, les gens qui disent l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah. C'est un très joli trait d'esprit. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? C'est quoi ton message? C'est quoi l'idée, en fait, derrière? L'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire que l'histoire n'existe pas vraiment, tout n'est que récit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, finalement, les nazis, c'était pas si mal que ça, hein? Parce que, bon, on nous en tire un portrait négatif. Mais ça, c'est parce qu'ils ont perdu la guerre, hein? L'histoire a été écrite par les vainqueurs. La vérité est plus nuancée. Attends, attends. Puis surtout, la guerre, enfin, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Faut vraiment jamais avoir lu un bouquin d'historien pour dire ça. Hein. C'est vraiment. Les historiens, c'est quand même des monuments de nuances, de subtilités, de sources, de sourçage, de ce qu'ils racontent, etc. C'est pas. Donc non, justement, les historiens font même de l'histoire de la mémoire. On peut faire une histoire de la mémoire. On peut raconter comment on a représenté les faits, comment on sait représenter les faits, comment on a trahi la réalité historique pour en fabriquer un roman, etc. Ça, il y a des historiens qui travaillent là-dessus sur comment est-ce que le résistentialisme s'est imposé dans l'état d'esprit général des Français après la Seconde Guerre mondiale. La France était résistante, la France était à Londres, Vichy, c'est pas la France, etc. Toute cette histoire-là, pour servir le récit gaulliste de l'histoire. Les historiens aujourd'hui, c'est quand même assez précis. On a des sources et tout, on sait très bien que non, On s'est tous raconté ça à l'époque et tout, puis on continue, il y en a encore aujourd'hui qui continuent à le dire, mais les travaux d'historiens sont quand même aujourd'hui assez balèzes sur le fait que non, 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 toute la France n'était pas résistante. Non, pas du tout, non. C'est enfantin, voire naïf de ta part de penser que les vainqueurs ne tournent pas les choses à leur avantage. D'accord, à quel moment j'ai dit ça? Le neuneu bienveillant, puisque c'est ton pseudo. Évidemment que les vainqueurs tournent l'histoire à leur avantage, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Toujours. C'est ce que je vous ai expliqué sur l'Algérie, ce que je vous explique, c'est exactement ça l'histoire. Mais c'est justement, c'est pas ça l'histoire. Le travail d'un historien, c'est pas ça. Pas de faire un travail de mémoire et tout. Il n'a pas suivi. Non, non, il n'a pas suivi. Heureusement que les historiens font un travail d'historien qui s'oppose bien souvent au travail de récit qui est fait par les camps politiques. C'est comme quand le Parti communiste français, après la chute du mur de Berlin, avait déclaré que le bilan de l'URSS était globalement positif. Bon, bah voilà, il y a des historiens qui sont passés derrière, quoi. Et bon, alors on va regarder. Ouais. Tu voulais voir les choses comme ça, oui. On peut même faire de l'histoire de l'histoire. Ah bah l'historiographie, oui. Oui, bien sûr. Donc ouais, bon, la morale de l'histoire, c'est quoi? Lisez et écoutez les historiens. Ils sont quand même les mieux placés pour parler d'histoire. Écoutez les récits, parce qu'ils existent et ils font partie du débat public. Mais gardez en tête que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des récits. C'est pas mal en soi, mais ça dit quelque chose de leur production. Je vois que le problème est surtout dans l'éducation, tellement de faits oubliés ou tronqués, c'est quand même dommage. Ouais, t'es un peu méchant en disant ça, vas-y mollo quand même. Enfin, je veux dire, il y a des profs d'histoire géo qui font leur taf, qui le font bien. C'est pas facile d'expliquer à des collégiens, à des lycéens, etc. En plus, t'as pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Travailler avec des manuels d'histoire qui sont pas tous achetés par la fenêtre tout le temps. Enfin, tu vois, c'est. Non, on ne ment pas à grande échelle aux enfants dans les écoles. Dire ça non plus. C'est comme Bonaparte, niveau histoire, il y a à boire et à manger. Oui. Oui, puis alors, Bonaparte lui-même était un très grand propagandiste de Bonaparte. Vous savez que pendant la campagne d'Italie, Bonaparte éditait un journal en France qui racontait les exploits de la grande armée, de l'armée d'Italie, etc., machin, qui a participé à la gloire de Bonaparte, qui n'hésitait pas à tourner à son avantage un paquet de trucs, quand même. Donc, ouais, non, c'est. César, César, César. La campagne des Gaules de César a été racontée par César aux Romains. T'inquiète que. Voilà. César, il a bien raconté ce qu'il voulait bien raconter. Il n'a pas hésité à enjoliver un maximum le truc pour devenir empereur et tout. Donc c'est. Racontait des salades. Il n'a pas été empereur César, mais on a compris. Oui, je sais, je sais, je sais. Pardon, pardon, pardon. T'as compris, t'as compris. Le temps des tempêtes. Non, mais c'est très bien, mais attention, ça fait d'ailleurs partie de l'histoire, encore une fois. Il ne faut pas s'arrêter Les mémoires, lisez les mémoires de De Gaulle, hein, lisez les mémoires de De Gaulle, lisez les mémoires de Mitterrand, lisez les mémoires de Chirac, etc. Ils vont vous raconter comment eux ont vécu les choses, qui est un point de vue extrêmement intéressant sur les choses, mais qui n'est pas la vérité historique. Un angle tout particulier qui peut éclairer beaucoup de choses, et heureusement. Donc je ne veux pas vous empêcher d'écouter les gens parler, hein. Surtout ne dis pas il faut écouter que les historiens, tous les autres racontent absolument n'importe quoi, tout est vicié, tout est vrillé, etc. Non. Le récit sur l'histoire fait partie du débat politique, et c'est normal. Très bien, ça fait partie du jeu, ok. On avait les mémoires de De Gaulle à mon époque au bac de littérature. Ah ouais? Les mémoires de De Gaulle? Il bosse plus à l'Assemblée, c'est les vacances. Non, 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 il n'y a pas de question au gouvernement cette semaine parce que c'est une semaine de suspension des travaux à l'Assemblée nationale. Une semaine de vacances, si vous préférez. Faut juste pas oublier qu'une personne a ses opinions et donc prendre des pincettes. Oui, enfin prendre des pincettes ou pas, c'est oui, c'est le statut d'une opinion reste un statut valable, hein, c'est une opinion, et ça se défend. On peut même y adhérer, on a le droit, hein. C'est pas grave. Pas de gouvernement, pas de questions, habile. T'as vu ça? Impressionnant, hein. À ce stade, il n'y a plus aucune chance que Bayrou démissionne, même avec toutes les révélations des dernières semaines. Non, 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 mais moi, j'ai jamais cru que le scandale de Bétarame était susceptible d'entraîner la démission de François Bayrou. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que François Bayrou va quitter le pouvoir à cause de l'affaire Bétarame. Il y a un travail qui est lancé du côté de la justice, semble-t-il, une enquête est ouverte. Du côté de l'éducation nationale, il y a une inspection. Du côté du Parlement, il y a une mission d'information, une commission d'enquête, je ne sais pas, qui est sur les rails. Donc donc les choses avancent. Mais François Bayrou ne tient son pouvoir que par la maigre coalition à l'Assemblée nationale qui ne le censure pas. Donc. Est-ce qu'on a déjà eu un scandale de cette taille pour un Premier ministre? Oui. Oui. Oui, bien sûr. C'est déjà arrivé. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des suites judiciaires sur un Premier ministre qui aurait laissé ça passer? Oui, c'est possible. Si un magistrat estime que ça relève d'une infraction, il pourrait y avoir l'ouverture d'une information judiciaire ou d'une enquête pour regarder. Et puis après, s'il y a renvoi devant un tribunal, il peut y avoir une condamnation, c'est possible. Il y a eu un dépôt de plainte pour non-dénonciation. Ouais, j'ai vu, il y a eu un dépôt de plainte. Bah, on verra ce que la plainte, si elle est constituée, si elle est caractérisée juridiquement, si les faits reprochés sont susceptibles de recouvrir la notion de non-dénonciation de crime ou de délit. Oui, c'est possible. Il n'a pas d'immunité, le Premier ministre. Non, il n'y a pas d'immunité similaire à ce qui peut exister pour une immunité présidentielle ou parlementaire. Pour autant, est-ce qu'il peut être entendu par un juge en tant que Premier ministre? Je ne sais pas. On verra parce que ce que ce que Pour l'instant, l'axe de défense de François Bayrou, c'est de dire, mais quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai demandé une inspection. Et le rapport d'inspection de 1996 dit qu'il n'y a aucun problème dans l'établissement. Donc partant de là. Pourquoi ça sort que maintenant, le fait qu'il soit Premier ministre a poussé l'enquête, il n'aurait jamais été inquiété. Il n'y a pas eu de travail d'enquête judiciaire jusqu'à présent, ça va peut-être commencer, on verra, mais c'est surtout un travail d'enquête journalistique hein, jusqu'à présent sur l'affaire de Betarame, c'est surtout Mediapart qui a fait un travail d'enquête journalistique. Et oui, effectivement, le fait que François Bayrou soit Premier ministre a sans doute. C'est ce que je vous avais déjà expliqué, dès lors que quelqu'un, quel que soit le parti politique, hein, dès lors que quelqu'un est nommé Premier ministre, bon, bah, y a plein de rédactions qui s'intéressent à lui. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, d'où il vient, etc., machin, dans quoi il a bossé et tout. Et puis parfois, en ouvrant des dossiers, les langues se délient et on apprend. Ah, tiens, c'est intéressant, on a peut-être quelque chose. On s'en tape de Betarame, il y a le système de retraite et les finances de la France qui sont en train de mourir, tout le monde s'en tape. C'est marrant que tu te plaignes du fait que selon toi tout le monde s'en tape de ça, alors que tu dis toi-même qu'on s'en tape de Betarame. Bien la preuve que ça ne te dérange pas plus que ça, qu'on s'en tape d'un sujet plus que d'un autre. Puis par ailleurs, ces différents sujets ne sont pas exclusifs les uns des autres. Tu vois, on peut ne pas s'en taper de Betarame, tout en ne s'en tapant pas beaucoup plus de la situation économique et financière du pays. Tu vois, genre, en fait, les deux sont possibles. Voilà. Il y a des gens qui meurent de faim, ouais, il y a aussi des enfants qui sont victimes de violences. Les deux sont pas exclusifs l'un de l'autre. On peut s'émouvoir des deux, on peut s'intéresser aux deux, on peut. Tu vois, bon, voilà. Mais c'est pas contre toi, hein, évidemment, mais c'est parfois il y a aussi des gens qui disent on parle d'agriculture, on parle d'agriculture, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital pendant ce temps-là? C'est bien la preuve qu'on s'en fout de l'hôpital. Ben non, on s'en fout pas de l'hôpital. Le fait est que là, on est en train de parler d'agriculture parce que c'est le sujet du moment, mais ça n'empêche pas que l'hôpital existe toujours et qu'on s'en inquiète toujours. Genre. On travaille sur tous les sujets en même temps, en fait. On avance sur tous les sujets. C'est pas. Comment se fait-il que la question du maintien de l'établissement éducatif après 112 plaintes ne se pose plus, en plus du cas de Bayrou? Bah, il faut voir déjà si ces 112 plaintes visent des faits qui se sont déroulés actuellement dans l'établissement, auquel cas des personnes actuellement en poste dans l'établissement pourraient être poursuivies, et ça, la question peut se poser. Si c'est sur des faits passés, si aujourd'hui l'établissement Notre-Dame de Bétharram n'a rien à voir avec ce qu'il a été par le passé, si les gens ont changé. Il s'est quand même passé des choses en plusieurs décennies. Bon, bah, il n'y a pas de raison de fermer l'établissement. Betarame, c'est toujours ouvert? Ah oui. Oui, l'établissement scolaire existe toujours. À l'heure où je vous parle, il y a des enfants à Betarame, etc. Mais c'est un établissement historique, Betarame, c'est un établissement qui existe depuis des décennies. Et il a pu se passer des choses par le passé, peut-être que ça ne se passe plus aujourd'hui. J'espère, évidemment, j'espère comme tout le monde que ça ne se passe plus aujourd'hui. Puis j'espère même que les gens ont changé et que voilà. 111 plaintes quand même, y aurait-il pas un petit souci? Mais si, si, bien sûr. Il faut regarder ce qui s'est passé, il faut que les responsabilités soient établies, ça c'est le travail de la justice. Ça c'est le travail de la justice, il faut évidemment explorer ce qui s'est passé dans cet établissement, que les responsabilités, s'il y en a, soient établies, que les condamnations soient rendues, que la réparation des victimes soit possible, etc. Ça c'est un travail très 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 important qui est celui de la justice. Et il faut que cet établissement, mais comme les autres établissements, soit encore aujourd'hui surveillé par l'éducation nationale sur son fonctionnement, sur les éventuelles dérives qu'il pourrait y avoir encore aujourd'hui. La commission d'enquête aussi. Alors, la commission d'enquête, non. La commission d'enquête, je vous rappelle encore une fois qu'une commission d'enquête parlementaire n'est pas un tribunal. Une commission d'enquête parlementaire ne cherche pas à établir des responsabilités individuelles, des comportements délictueux, etc. Une commission d'enquête parlementaire va s'intéresser au fonctionnement des pouvoirs publics et de voir si les circuits de prise de décision se sont avérés être à la hauteur du problème, s'il y en a eu un, etc. Il est là l'enjeu. Il n'y a aucune sanction autre que politique pour Bayrou et ses mensonges à nos représentants. En l'état actuel des choses, je vous l'ai déjà dit, hein, mentir à l'Assemblée nationale n'est pas illégal. Au demeurant, heureusement. Sur les défaillances de l'État dans le traitement de Betarama. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors on verra ce que sera le travail de la commission d'enquête. Pourquoi heureusement? Bah parce que figurez-vous que peut-être que ma vérité n'est pas la vôtre. Genre, il est possible qu'il y ait des députés qui prononcent des phrases dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que je considère comme vraies, mais que vous pourriez considérer comme fausses. Dès lors, heureusement qu'il n'y a pas des plaintes et des emprisonnements de politiques à chaque fois qu'ils disent quelque chose que les autres contestent. Donc, oui, mais dans ce cas, dans le cas de Bayrou, il se contredit, même d'un jour sur l'autre, si la vérité n'est pas la sienne. Ah, mais François Bayrou change de version en 24 heures, ce qui clairement est un affaiblissement politique pour lui, hein, de toute évidence. Mais ça en fait pas un délit, hein. Ça en fait pas un délit. Un député a le droit de dire quelque chose de faux factuellement sans répercussion. Oui, absolument. Le mensonge n'est pas un délit. Le mensonge n'est pas un délit, il ne l'a jamais été. Modulo l'éventuelle sanction électorale. Ah, ben ça c'est autre chose, oui, la sanction politique. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une, et puis mentir à l'Assemblée nationale, c'est une faute professionnelle grave pour les représentants. C'est pas une profession, député, c'est un mandat. Donc, il n'y a pas de faute professionnelle, ça n'existe pas. Bah, je vais te donner un exemple. Le nouveau Front populaire a remporté les élections législatives. Cette phrase, elle est vraie ou elle est fausse? Je l'ai entendue, elle a été prononcée à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Bah, elle est ni vraie ni fausse. Elle est, c'est pas. On a le droit de considérer que le NFP a remporté les élections législatives. C'est possible. C'est pas complètement délirant comme opinion. On peut aussi considérer que c'est pas le cas. On a le droit aussi, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, c'est. Je suis pas en train de vous dire que toute vérité est relative. Je suis en train de vous dire que dans un débat politique, on mobilise des affirmations qui peuvent être tout à fait contestées par la partie d'en face. Le nucléaire est dangereux, il faut en sortir. Cette phrase, elle est vraie ou elle est fausse? Factuellement, le NFP est arrivé en tête. Oui, donc merci de reconnaître que le NFP n'a pas gagné. Il est arrivé en tête, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, c'est une question de point de vue. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Vous avez parfaitement le droit de défendre l'idée que non, non, mais si, 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 on gagne les élections quand on arrive en tête. C'est ça la règle. Ça n'a jamais été la règle. Mais vous pouvez défendre l'idée que c'est pour vous ce qui compte. Vous avez le droit. C'est pas exorbitant, hein. C'est pas faux. Donc encore heureux que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les hommes et les femmes politiques aient le droit de s'exprimer et de défendre une vision des choses. Encore heureux. Bayrou a menti, mais on ne peut pas l'attaquer pénalement sur ce mensonge. Exactement. La sanction pourra être d'ordre politique, en l'occurrence. Bayrou, c'est pas une vision des choses, justement, c'est ça le problème. Bah, j'en sais rien, je suis pas l'avocat de Bayrou, mais Bayrou va se défendre. Quand Bayrou dit j'ai fait tout ce que je devais faire en tant que ministre, j'ai fait tout ce que je devais faire en tant que ministre. Bah, lui estime qu'il a fait tout ce qu'il relevait de sa responsabilité. Il est fortement possible que je sois en désaccord avec lui sur ce point précis. Je pense qu'il aurait pu faire plus. Et c'est tout l'intérêt, justement, de la commission d'enquête parlementaire qui va devoir travailler justement là-dessus en disant que doit faire un ministre dès lors qu'il est informé qu'il y a un problème dans un établissement. Demander une inspection. Si le rapport d'inspection lui dit il n'y a pas de problème dans cet établissement, que doit faire le ministre? Est-ce qu'il doit effacer le rapport et dire si, 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 je suis sûr qu'il y a quand même quelque chose et agir? Ou est-ce qu'il doit s'en tenir aux remontées administratives du rapport? Toutes ces questions sont des très bonnes questions. Toutes ces questions sont des très bonnes questions. Et il faut qu'une commission d'enquête parlementaire travaille dessus pour améliorer notre système de remontée d'alerte sur des établissements scolaires. La commission est-elle indépendante? Une commission d'enquête parlementaire, c'est la chose la moins indépendante du monde. Commission d'enquête parlementaire, elle est composée de membres du Parlement, de l'Assemblée nationale en l'occurrence, qui viennent des différents groupes de l'Assemblée. C'est un travail contradictoire, c'est un travail politique. Alors il est indépendant du pouvoir exécutif. Une commission d'enquête parlementaire, comme son nom l'indique, relève du pouvoir législatif, parlementaire, indépendant du gouvernement. Les inspections réalisées par les inspections de l'administration relèvent du pouvoir réglementaire du gouvernement. Les enquêtes menées par les services de la police judiciaire relèvent de la justice. Chacun son rôle, chacun son job. Par contre, mentir devant une commission parlementaire, c'est pénalement répréhensible. Alors, dès lors que tu déposes devant une commission d'enquête parlementaire sous serment, alors là, oui, c'est répréhensible de mentir sciemment devant cette commission. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une prestation de serment. C'est ce qu'on appelle le délit de parjure. Quand vous faites le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et que vous mentez, alors vous vous rendez coupable d'un délit, qui s'appelle le délit de parjure. Et ça peut arriver dans une commission d'enquête parlementaire. Mais dès lors qu'on dépose sous serment, on ne dépose pas toujours sous serment hein, d'ailleurs, c'est la commission d'enquête parlementaire qui décide. Pourtant, la vérité reste subjective, même sous serment. Bah, dès lors qu'il y a un délit de parjure, c'est à la justice d'estimer effectivement le niveau de mensonge. Il n'y a pas forcément de... Voilà. Y a pas... La justice peut être amenée effectivement à trancher que le prévenu n'a pas véritablement menti, il a développé une vision des choses qui lui était propre, qui a été contestée par la suite par les révélations faites par le reste de l'enquête, etc. Vous voyez, ça c'est le rôle de la justice d'estimer. C'est pas facile, hein, c'est le boulot des magistrats que de dire oui, c'est répréhensible ou pas. Est-ce qu'on peut faire une enquête parlementaire et convoquer le Premier ministre en exercice? Oui. Une commission d'enquête parlementaire peut être amenée à auditionner le Premier ministre en exercice. Président de la République, non. Est-ce que la justice peut démettre un Premier ministre? Non. Le Premier ministre peut-il ignorer la convocation? Non. Non, devant une commission d'enquête parlementaire, personne ne peut ignorer la convocation. N'y a que le président qui peut virer le Premier ministre? Ah bah non, il y a l'Assemblée nationale aussi. Rappelez-vous, décembre dernier, c'était il n'y a pas longtemps, Michel Barnier n'a pas été viré par Macron, hein, était viré par les députés. Alexis Kohler a essayé d'esquiver une commission. Bah oui, parce que, alors ça pour le coup c'est un sujet intéressant, mais est-ce que le secrétaire général de l'Élysée peut bénéficier de la protection du président de la République dès lors qu'il travaille très directement pour lui et ainsi ne pas être auditionné et mis sous la pression du Parlement? C'est une vraie question, honnêtement, j'ai pas la réponse. Hein. C'est une vraie question. Seulement s'il est gentil, je dirais. Plus précisément que ça, seulement s'il est de mon parti à moi. Si c'est un président de la République que j'aime bien, je vais considérer qu'effectivement son secrétaire général n'a pas à être auditionné par la justice. Si par contre c'est un président que je déteste, alors là. Mais d'ailleurs, c'était une question qui s'était déjà posée au moment de l'affaire Benalla. Hein. Quels sont les membres des agents de la présidence de la République susceptibles de faire l'objet d'une audition en commission d'enquête parlementaire? La commission d'enquête parlementaire, ça relève de l'exécutif ou du judiciaire? Ni l'un ni l'autre. C'est écrit dans le titre. Commission d'enquête parlementaire, ça relève du pouvoir législatif, le Parlement. Donc c'est le pouvoir législatif. Voilà. Il est où d'ailleurs Benalla? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où il est passé. Alex, Alex, t'es où? Fais quoi, Alex? Où ça? Place de la Contrescarpe? Non, pas ce soir, non. Non, je suis pas chaud. Quelle est la finalité du coup? Ils enquêtent et puis c'est marre. Alors les finalités sont très différentes les unes des autres. La justice, lorsqu'elle enquête, via les magistrats instructeurs, juges d'instruction, procureurs, etc., la justice s'évertue à essayer de chercher si des personnes ou des entités se sont rendues coupables de délits ou de crimes en contrevenant à la loi. Dès lors, le rôle de la justice sera d'estimer le niveau de violation de la loi, estimer la loi en question qui a été violée, et d'en déterminer une peine, une réparation éventuelle pour les victimes. Ça, c'est le job de la justice. Trouver les responsabilités individuelles des personnes physiques et morales, tout ça, tout ça. La commission d'enquête parlementaire, elle, n'a pas vocation, n'a pas pour rôle de juger au sens de coupable, pas coupable, peine de prison, peine d'amende, machin, pas du tout. C'est pas du tout son job. Une commission d'enquête parlementaire va s'intéresser à d'éventuels dysfonctionnements. Des organisations, des personnes, etc., de manière à mener un travail d'ordre législatif, d'amélioration du droit. C'est ça le job du Parlement, c'est d'écrire la loi. Donc d'imaginer ce que demain devrait être le fonctionnement des choses, de manière à parvenir au résultat souhaité par le Parlement. Prenons l'exemple de Betaram. Si une commission d'enquête parlementaire à l'occasion de ses travaux, de son enquête, met en exergue qu'il y a pas assez de contrôle des établissements scolaires privés par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, dans les conclusions du rapport de la commission d'enquête, les parlementaires diront qu'il faut à l'avenir renforcer les contrôles. Il faut qu'il y ait des contrôles plus réguliers. Il faut que les contrôleurs soient plus indépendants. Il faut que nanana, etc. Et donc ils écrivent ça dans les conclusions de leur rapport d'enquête. Mais elles servent à quoi les conclusions de leur rapport d'enquête? Eh bien elles servent à ce que les parlementaires eux-mêmes votent la loi. Donc, dans la prochaine loi qui a trait à l'administration et notamment l'éducation nationale, les parlementaires, sur la base de leurs propres conclusions, vont élaborer des dispositions législatives qui viseront à améliorer le contrôle des établissements privés hors contrat, etc., et sous contrat, etc. Dans le budget de l'année suivante, les parlementaires, sur la base de leurs propres travaux, de leurs propres conclusions du rapport de la commission d'enquête, vont voter des crédits pour améliorer l'inspection de l'éducation nationale. Recrutement de personnel, formation, etc., machin. C'est à ça que ça sert un rapport de commission d'enquête parlementaire. Est-ce que ça peut utiliser par les juges des cours suprêmes ces travaux? Alors absolument. Un travail de commission d'enquête parlementaire, un rapport de commission d'enquête parlementaire, peut tout à fait être utilisé par la justice. Si, à l'occasion de leur enquête, les parlementaires ont mis en exergue des comportements ou des omissions qui pourraient éventuellement relever d'un délit, alors la justice peut prendre le travail des parlementaires et dire, nous, ça nous intéresse, c'est notre taf à nous, les délits. Donc, on prend le rapport, on reprend une partie des travaux et on dit, ok, d'accord, là, il nous semble, on ouvre une enquête, mais cette fois-ci, c'est la justice qui bosse, qui fait son truc. Pas les parlementaires, ils ne sont pas là pour juger. La preuve avec Aurore Berger dernièrement. Ça, c'est encore autre chose. Aurore Berger n'a pas été condamnée pour parjure, hein, je vous rappelle. Une enquête a été ouverte pour savoir si elle avait menti sous serment dans le cadre d'une de ses dépositions devant une commission d'enquête. On verra ce que la justice aura à en dire, charge à la justice d'estimer si le délit est constitué ou pas. Ça se fait pas automatiquement. La justice peut-elle automatiquement saisir une affaire issue d'une enquête parlementaire? Non, ben non, non, il y a pas d'automaticité. C'est seulement si il y a des délits qui sont susceptibles d'avoir été commis. Si tu fais une commission d'enquête sur, je sais pas moi, le fonctionnement, j'en sais rien, des services sociaux dans le cadre du budget de la sécurité sociale, un truc hyper technique, machin. La justice, elle va regarder, elle va faire non, non, mais visiblement, il n'y a pas de délinquance, c'est pas le sujet. C'est seulement si on peut estimer, c'est seulement si la justice estime qu'il est possible qu'il y ait eu des délits. Non. Les commissions d'enquête parlementaire ne visent pas que des comportements délictueux, hein. Comment expliquer que ça prenne autant de temps? On pourrait supposer qu'elle n'a pas besoin d'enquêter puisque les faits ont été enregistrés. Attends, t'es marrant, c'est pas. J'ai bien compris que toi, ta conviction était faite. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de faire d'enquête ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Pour toi, c'est déjà terminé, condamné. Mais en fait, ça prend du temps. Un travail parlementaire. Tout travail parlementaire prend du temps. Le temps du travail, de l'exploration, de l'audition, le temps de nourrir les réflexions, le temps de débattre, le temps d'échanger, le temps de conclure, etc. Voilà, c'est comme la justice. La justice, ça prend du temps. Parfois trop, c'est certainement, mais ça prend du temps. Quel pouvoir les parlementaires disposent-ils? Ils peuvent demander par exemple des documents d'une entreprise, exiger de visiter tel endroit. Oui, absolument, les parlementaires disposent d'un pouvoir assez large, hein, d'audition. Ils peuvent auditionner n'importe qui, à l'exception des. On en parlait tout à l'heure, la séparation des pouvoirs, président de la République, etc. Ils peuvent obtenir tout document utile, notamment les documents de l'administration. Ils peuvent faire des auditions. Ils peuvent faire des auditions à huis clos, pour des sujets sensibles, pour garder le secret, des choses comme ça. Ils peuvent se rendre sur place, effectivement, visiter des prisons, des centres de rétention administrative, des établissements scolaires. Ça, c'est tout à fait possible. Que risque quelqu'un qui ment devant une commission parlementaire? Quelqu'un qui ment à l'occasion d'une déposition sous serment, que ce soit devant une commission d'enquête parlementaire ou devant la justice, ou ailleurs, je ne sais pas où ça existe ailleurs, mais admettons, cette personne est susceptible de s'être rendue coupable d'un délit qui s'appelle le délit de parjure. Alors le délit de parjure, qu'est-ce qu'on encourt? 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Voilà. C'est la peine encourue pour un délit caractérisé de parjure. Et Aurore Berger, elle n'est pas en justice pour ça, on sait qu'elle a menti elle aussi. Aurore, une enquête a été ouverte sur le cas d'Aurore Berger qui pourrait s'être rendue coupable de parjure devant une commission d'enquête parlementaire. La justice est en train de bosser dessus pour vérifier effectivement s'il y a matière à la déférer devant un tribunal. Stop au laxisme avec les puissants, ferme automatique et amende majorée. Ça va être dur pour les insoumis, ça. Mais ok, si tu veux. Une enquête, c'est à charge et à décharge. Oui, c'est ça. Non, non, mais Aurore Berger, dans le cadre de l'enquête, va avoir l'occasion de s'expliquer. Et puis on verra à la fin si les magistrats la renvoient devant un tribunal. Ou s'ils estiment qu'il y a un non-lieu en disant non, non, il n'y a pas de lieu de poursuivre. Mais enfin, quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République et qu'il aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale, les ministres insoumis vont être auditionnés par des commissions d'enquête parlementaire. Commission d'enquête parlementaire présidée par le Rassemblement national. J'ai hâte de voir vos réactions à ce moment-là, lorsque sera soulevée la possibilité éventuellement d'un délit de parjure. Sais pas, j'en sais rien. C'est marrant, si tu voles un sandwich au supermarché, tu es pris en flagrant délit et tu vas en comparution immédiate, mais les politiques, c'est la teuf. Alors non, ça marche pas comme ça. C'est pas... Tu peux pas comparer une enquête de flagrance avec une enquête pas de flagrance. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des politiques, en fait. T'es pas... Enfin, t'as le droit de détester les politiques, hein, c'est pas le sujet. Le fait est que un délit en flagrance peut t'emmener en comparution immédiate, que tu sois politique ou autre chose. C'est vraiment, vraiment pas le sujet. Et par ailleurs,
Par ailleurs, les magistrats ne sont pas particulièrement connus pour avoir la main légère dès lors qu'il s'agit de condamner des politiques. Je vous rappelle qu'il y a même certains politiques trouvent que les magistrats ont la main trop lourde dès lors qu'il s'agit de condamner des politiques. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. Plutôt pas trop d'accord avec eux, mais. Eva Jolie, elle était sympa avec les politiques. Oula. Oula, Eva Jolie. Oulala. Là là. Que risque Marine Le Pen d'ailleurs? Dans le cadre de son procès sur les estants parlementaires du Rassemblement du Parlement européen, Marine Le Pen encourt, alors le plus célèbre en tout cas, sur les peines d'amende et de prison, j'en sais rien, j'ai vraiment pas regardé. Le plus connu et ce dont on discute le plus, c'est une peine davantage politique qui est la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est ça qui fait l'objet de tous les débats, parce que si jamais elle est condamnée à une inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, alors elle ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il serait possible qu'elle soit condamnée à l'inéligibilité uniquement pour les élections européennes? Non. Non, non, la peine d'inéligibilité s'applique pour toutes les élections, on ne fait pas le tri. Tu ne peux pas trier entre les élections. Personne qui est inéligible, elle est inéligible. Elle peut toujours siéger? Oui. Une inéligibilité n'implique pas la fin du mandat en cours. C'est pour les prochaines élections que ça vaut, pas pour le mandat en cours. On est d'accord que malgré l'appel, s'il y a exécution provisoire, il n'y a pas de suspension de la peine. Oui, exécution. C'est le principe d'une exécution provisoire, c'est que la peine est exécutée même s'il y a appel de la part de la personne condamnée en première instance. L'inéligibilité, je trouve ça assez dangereux d'une manière générale. C'est vraiment un puissant outil pour se débarrasser des opposants politiques. Je suis d'accord avec toi. Moi, je fais partie des gens qui sont plutôt, effectivement, précautionneux sur la notion d'inéligibilité. Parce qu'on a l'impression que ça va viser le camp d'en face. Puis, en fait, quand on se le prend dans la gueule, on se rend compte que c'est un outil un peu dangereux. Donc, je. Ouais. Pourquoi pas, hein, mais. L'inéligibilité, ça a une durée, tu peux redevenir éligible dans 20 ans. Oui, absolument. Une peine d'inéligibilité est prononcée avec une durée. Donc tu es inéligible pendant X années. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, je sais pas exactement quelles sont les dispositions prévues spécifiquement sur cette peine-là, mais oui, ça c'est possible. Je suis en train de regarder ce qu'est le droit positif, mais je ne suis pas sûr de comprendre très bien ce concept. Est-ce que tu saurais le décrire? Sans rentrer dans le détail, ce qu'on utilise quand les juristes parlent de droit positif, c'est pour désigner le droit applicable à l'instant T. Le droit positif, c'est le droit qui est aujourd'hui applicable dans les tribunaux, là, maintenant, tout de suite, avec les interprétations, avec la jurisprudence, etc. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est. Après, on pourrait rentrer dans le détail de savoir si la doctrine fait partie du droit positif et tout, mais bref. C'est pas une définition figée. Non, non, c'est un concept qui fait l'objet de discussions en théorie, mais c'est bref. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas de QAG cette semaine? Oui, on sait pourquoi il n'y a pas de QAG cette semaine. Après enquête minutieuse de la part du service régional d'enquête de la Jean Massier Corporation. Il s'avère, selon les conclusions du rapport d'enquête, que l'Assemblée nationale serait, conditionnel, serait cette semaine en vacances. Il y aurait prévu dans l'agenda depuis de longs mois une semaine de suspension des travaux. Terrible. Une commission d'enquête streamesque va néanmoins devoir se pencher sur la question douloureuse suivante: pourquoi et comment le streamer Jean Massier a-t-il pu passer à côté de cette information et indiquer dans son programme de stream qu'il allait couvrir ses séances inexistantes? Alors qu'on savait depuis des mois qu'il y avait une période de suspension des travaux qui était prévue à cette date-là. C'est un sujet difficile qui met en difficulté le streamer, qui entache sa réputation de fines connaissances soi-disant du monde parlementaire et tout, mon cul. Le mec est juste pas capable de lire un agenda et de se rendre compte que tiens, cette semaine, il n'y a pas de séance. Voilà, ben voilà, on en est là. Il a nié jusqu'à la veille. Il a nié jusqu'à la veille. La veille, le lundi, il a donné rendez-vous à son chat le lendemain en lui disant demain QAG. Alors qu'il aurait dû préalablement vérifier dans l'agenda qu'il y avait bien QAG le lendemain. Non, il y a là un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement du service public. Il y a un dysfonctionnement du service public. Il faut faire un rapport d'inspection. Et sur la base de ce rapport, peut-être donner des suites judiciaires à ce dysfonctionnement. C'est le gouvernement précédent qui était au courant, par contre. C'est ça. C'est le gouvernement Barnier qui savait, qui n'a pas transmis l'info. L'inéligibilité empêche-t-elle la nomination pour un ou une ministre? Non. Une peine d'inéligibilité vous rend inéligible. Donc, inaccessible à l'élection. Municipal, départemental, régional, Parlement européen, Assemblée nationale, Sénat, Français de l'étranger, autres exécutifs locaux d'outre-mer, divers et variés, etc. En revanche, la nomination d'un ministre n'est pas une élection. On n'est pas élu ministre, on est nommé ministre. Dès lors, si vous êtes frappé d'une peine d'inéligibilité en cours, vous pouvez toujours être nommé ministre. Voilà. Ça peut arriver. Les députés ont quand même accès à leur bureau à l'Assemblée nationale ou c'est fermé entièrement? Non, 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 les députés ont toujours accès à leur bureau à l'Assemblée nationale. Ça, ils peuvent aller bosser tranquillement, profiter du fait qu'il n'y a pas de séance cette semaine pour avancer sur les dossiers, lire les 5000 mails en retard. Voilà. Comment c'est pas anticonstitutionnel, ça? Ça n'a rien à voir avec la Constitution, là, c'est de la langue française. Hein. C'est inéligible, ça veut dire pas éligible. Éligible, ça veut dire élection. Dès lors que la nomination d'un ministre n'est pas une élection, mais une nomination, ça n'a rien à voir. Tu peux être nommé ministre en étant inéligible, c'est possible. Souvent, ils prennent réellement des vacances ou ils bossent pendant cette semaine. Je pense que les députés font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a, à mon avis, qui en profitent pour souffler un peu et aller voir leur famille. D'autant que Noël dernier, vous vous souvenez, avec les budgets, avec Barnier, il y en a peut-être quand même un paquet de députés qui n'ont pas pu aller voir leurs parents, etc. Donc bon, il y a peut-être des députés qui se sont dit, c'est quoi, je vais en profiter pour aller passer quelques jours avec maman, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc vacances. D'autres députés qui doivent se dire, bah, je vais en profiter pour rester en circo, donc au niveau local. Passer un peu de temps avec mes collaborateurs, souffler un peu, on va en profiter pour faire un séminaire entre nous d'une journée pour discuter un peu de la stratégie, les machins. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Les députés en profitent un peu pour soit souffler, soit bosser différemment. C'est intense niveau travail, député? Bah. En fait, c'est dur de te répondre parce que ça dépend beaucoup du député. Un député très investi dans son travail peut effectivement, et j'en connais, hein, se retrouver en situation de burn-out, de vraiment d'épuisement professionnel, de vraiment n'en plus pouvoir travailler d'arrache-pied matin, midi et soir, etc. Communiquer énormément, faire plein d'interviews, faire des déplacements, répondre favorablement à toutes les invitations partout, tout le temps. Tu peux cramer, tu peux littéralement cramer. Il y a d'autres députés qui travaillent sur des dossiers, qui se spécialisent dans des dossiers moins prenants, moins médiatiques aussi, et qui font un travail plus de fond, et qui donc peuvent avoir des horaires un peu plus calmes, et une vie un peu plus calme. C'est vraiment un peu au choix du député, hein. Dans le contexte politique anxiogène, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible de confronter ou interdire les mensonges des communicants politiques. On voit des contradictions partout, je trouve ça vraiment insupportable. Je suis navré, mais il va vraiment falloir que tu t'y fasses. Hein. La contradiction, c'est au cœur de la démocratie. C'est le cœur du débat démocratique est là. Un monde dans lequel tout le monde dit la même chose, c'est pas une démocratie, ça. Ça s'appelle la Corée du Nord. C'est pas ouf. La contradiction, c'est le dissensus, hein. C'est au cœur du débat démocratique. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne regarde pas les choses de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc, navré, mais. Non, non, si, en démocratie, la contradiction, c'est au cœur du truc. Les faits restent les faits. Oui, je sais, les faits restent les faits, je sais, je sais, je sais. Mais encore une fois, les faits ont beau être les faits, on peut les regarder de manière différente. Les chiffres de l'INSEE ne sont pas regardés par tous les politiques de la même manière. Regardez, même le Conseil d'orientation des retraites arrive à dire deux choses différentes à 3 mois d'écart, sur la base des mêmes chiffres. Faut y aller quand même. Si on a un ministère de la vérité, je vois facilement comment ça peut dégénérer. Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la vérité officielle, au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il dit le corps de différents? Le Conseil d'orientation des retraites, pendant les travaux parlementaires en commission sur la réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites a dit que le système des retraites était globalement équilibré et qu'il n'y avait pas vraiment besoin de réformer. Ça a beaucoup énervé les macronistes, ça a réjoui la gauche, hein, qui vraiment on a fait des caisses là-dessus avec des tweets et tout, je m'en souviens très bien. Puis une fois que la réforme est entrée en vigueur, le Conseil d'orientation des retraites a rendu un rapport quelques mois plus tard en disant que la situation était tellement dégradée qu'il allait peut-être falloir réformer à nouveau. Bon, il y a un moment. Ouais, d'accord. Donc du coup, on comprend plus rien. Du coup, bah, on va voir les rapports du COR pour voir ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Et tu comprends en lisant le Conseil d'orientation des retraites. D'ailleurs, je vous invite à lire les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Ça commence par 5 pages d'explication de pourquoi l'exercice est difficile, voire impossible. La santé financière d'un système de retraite, dit comme ça, on a l'impression que c'est un truc qui est office, qui est objectif. C'est blanc ou noir. Enfin, il y a un moment, bon, voilà, ça marche ou ça marche pas. Pas compliqué. Eh ben, en fait, c'est impossible de répondre à ta fucking question, parce qu'en fait, ça dépend comment on regarde, ça dépend quels chiffres on prend en compte, ça dépend quel choix on fait soi-même dans sa manière de voir les chiffres, ça dépend quelles hypothèses on prend, parce qu'en plus, il y a des hypothèses de dynamisme, etc., machin. Ça dépend des hypothèses de croissance, des hypothèses de la productivité, de la hausse de la productivité, des hypothèses de taux de chômage, des hypothèses. Enfin, bon. Donc, c'est hyper bien les rapports du Conseil d'orientation des retraites. En plus, ils font eux-mêmes des hypothèses. Ils disent, bon, bah voilà, on va prendre 5 hypothèses. Une hypothèse hyper optimiste. Dans les 10 ans qui viennent, taux de croissance en hausse, chômage en baisse, taux de productivité en hausse. On regarde les chiffres, on regarde ce qui existe, tac, 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 et puis on mesure à peu près ce sur quoi on atterrit. Et puis, on va prendre le pire aussi. On va prendre un scénario où là, vraiment, croissance en berne, taux de productivité en berne, taux de chômage qui monte, évolution démographique défavorable. Et là, on regarde ce que ça donne à terme. C'est fou comme c'est devenu complexe sous Macron quand même. Rien à voir avec Macron. Rien à voir avec Macron. 100% de ce que je viens de te dire est valable depuis Jospin. C'est Jospin qui a créé le Conseil d'orientation des retraites. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron et François Bayrou ont réuni les syndicats pour une discussion sur la réforme des retraites, le fameux conclave initié par François Bayrou. Et le gouvernement a demandé à la Cour des comptes de faire un rapport objectif sur la situation du système de retraite. Et ils ont fait quoi, la Cour des comptes? Ben, ils ont fait exactement pareil que que le Conseil d'orientation des retraites, hein. Ils ont rendu un rapport dans lequel ils disent, bon, compliqué, c'est pas facile en fait de répondre à la question, ça dépend comment on regarde les chiffres. Non mais par exemple, non mais c'est intéressant, c'est vraiment une question de point de vue politique et de comment on regarde les choses. Le système des retraites aujourd'hui est à l'équilibre économiquement parce que l'État compense les pertes. Donc le système est déficitaire, même gravement déficitaire, mais pour pas que le système s'effondre, l'État file du pognon pour revenir à l'équilibre. Donc quand tu regardes les comptes à la fin de l'année, tu peux te dire « Oh bah ça va, ça marche, c'est à l'équilibre. » Oui, c'est à l'équilibre. Mais bon, comment dire ? C'est comme dire d'une personne qu'elle se déplace très bien parce qu'elle a une béquille. Ah bah, elle se déplace très bien. Regarde, elle se déplace. Oui, enfin, elle a une béquille quand même. Bah oui, mais techniquement, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de handicap. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, déjà, c'est une question intéressante. C'est une question philosophique, politique, etc. Le système de retraite par répartition doit-il fonctionner par lui-même tout seul ? Est-ce qu'il a vocation à être équilibré par lui-même ? Par les cotisations et uniquement par les cotisations ? Ou est-ce que c'est normal et naturel que l'État participe au financement du système ? Si oui, à quel niveau ? Bon, bah voilà, on peut en parler, hein. Si oui, avec quelle contrepartie? Oui, non, mais pareil, alors ça c'est pareil, c'est quand tu fais des hypothèses sur l'avenir du système de retraite, c'est... Faut-il baisser les pensions? Est-ce que ça fait partie des hypothèses qu'on a le droit d'émettre? Complexe, pas facile, et là pour le coup c'est purement politique. Tu peux pas demander à des spécialistes, c'est pas un problème d'ingénieur, tu peux pas demander à des spécialistes de proposer des hypothèses, etc. Il y a des choix politiques que tu peux être amené à prendre ou pas. Là, écoutez, c'est votre popularité hein, qui en joue. Si on emprunte pour couvrir les dettes, c'est une manière de ne pas dire aux gens qu'il faut cotiser plus, non ? Mais j'en sais rien, non, mais attends, on peut dire ce qu'on veut aux gens. Hein. Les rapports du Conseil d'orientation des retraites sont publics. Les chiffres des retraites, c'est public. Il n'y a rien de secret. Et oui, effectivement, c'est une question qu'on peut être aussi amené à se poser, mais qui est soumise au débat, sur laquelle je ne réponds pas. Hein. Est-ce que l'endettement est un problème en soi ? Indépendamment de parler du niveau d'endettement, ou de charge de la dette, ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est un problème en soi ? Et ça, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On croit les derniers rapports ou on en redemande un? Moi, ma réponse, c'est on assume d'avoir un débat politique. Il faut repolitiser la question. Il faut arrêter cette idée d'objectiver le débat par des chiffres incontestables où tout le monde sera d'accord, etc. Non. Non. Il y a des manières de voir les choses. Il y a des manières d'envisager un système de retraite. Il y a des manières de penser le rapport qu'on a avec nos retraités, l'importance du travail des actifs, de la répartition de l'effort entre le capital et le travail. Pourquoi c'est toujours aux travailleurs, par leur cotisation, de continuer à financer un système, alors que par leur travail, ils créent des richesses qui enrichissent davantage le capital? On a le droit de poser cette question. On a le droit de dire, il y a un moment, ça va. C'est pas que entre les travailleurs et les patrons hein, et l'État que se pose la question. Il y a aussi la performance du capital. On peut aussi raisonnablement se poser la question de savoir à quel moment elle passe à la caisse, elle aussi, pour financer le système de retraite. Tu veux toujours politiser la politique? Bah oui, il y a un moment, bon, c'est un débat politique, quoi. C'est pas un débat de spécialiste, c'est pas un débat de technicien, c'est pas un débat d'ingénieur, c'est un débat public. Et de l'autre côté, enfin, je veux dire, encore une fois, j'écoutais le discours des vœux de David Lisnard, qui est un libéral, un vrai libéral. Lui, il plaide pour un système par capitalisation. Lui, il assume de dire, mais il faut arrêter avec ce système par répartition qui est structurellement déficitaire à cause de la pyramide des âges. Il faut assumer que la France se dirige vers un système où chacun cotise pour lui-même. Via des fonds de pension, il y a des systèmes de retraite par capitalisation et tout. Il faut toujours qu'il y ait une retraite minimum, le minimum vieillesse, le MICO, le minimum contributif et tout. Voilà, on le garde. Bon, du reste, chacun doit être responsable pour lui-même. Très bien. C'est un argument, c'est une manière de voir les choses, c'est une proposition d'une stratégie, d'une direction, etc. Très bien. Ayons un débat d'ordre politique sur ce que l'on souhaite en termes d'État-providence, en termes d'interventionnisme public dans le fait de pourvoir au pouvoir d'achat des gens, quoi. Et puis, il y a des débats dans le débat. Est-ce que c'est à l'État de prendre la main sur notre système de retraite ou est-ce que ça doit rester un truc de la sécurité sociale géré par les partenaires sociaux? Bon, voilà. Les retraites complémentaires sont par capitalisation, ça existe déjà en partie. Ah, mais en plus, ça existe en partie. Alors, je vous rappelle que vous avez le droit, on est dans un pays libre, vous avez le droit de capitaliser pour votre retraite si vous avez envie. C'est libre. Si vous voulez mettre de l'argent dans une tirelire toute votre vie pour ensuite profiter de cet argent pour votre retraite, vous avez le droit. Je vous déconseille de faire ça parce que c'est pas très performant économiquement. Je vous conseille plutôt d'aller souscrire à des... Putain, c'est pas mon rôle de vous dire ça, mais souscrire à des plans de retraite complémentaires proposés par votre banque, qui se fera un plaisir de se faire du pognon, pardon, de vous proposer un beau plan d'épargne retraite. Donc ça existe, la retraite par capitalisation, c'est votre truc. Ça existe. Y a un risque en capital. Alors par ailleurs, oui, il y a un risque en capital, vous pouvez tout perdre. Je rigole, mais en fait, c'est pas marrant parce que enfin voilà, la crise des subprimes, etc., nous a rappelé que certain nombre de banques n'ont pas hésité à vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui, y compris à des gens qui n'avaient pas du tout les moyens de payer. Être pour la retraite par capitalisation, c'est surtout être contre la sécurité sociale. Oui, alors après, c'est pas tout blanc ou noir. C'est-à-dire que même David Lisnard souhaite le maintien d'un régime public de retraite, minimum. Donc c'est pas exclusif. Tu peux imaginer un mélange des deux. Et encore une fois, ce qu'on connaît aujourd'hui en France est en partie un mélange des deux. Après, il y a quand même une particularité, hein, c'est que notre système de sécurité sociale se base sur des cotisations retraite qui sont obligatoires. C'est pas au choix. Alors, dans des pays comme les États-Unis, c'est au choix. Vous cotisez à ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous choisissez votre plan retraite. Et malheureusement, beaucoup d'Américains qui n'ont pas de plan retraite. En France, la sécurité sociale, le régime obligatoire a quand même une particularité qui force la solidarité de fait. Donc voilà. Je pense que c'est bien que le débat sur l'avenir de notre système de retraite soit un débat d'ordre politique. Et je continue à défendre un débat d'ordre politique sur des choix qui doivent être faits ou qu'on peut avoir envie de faire sur un modèle plutôt qu'un autre, sur une vision plutôt qu'une autre, sur une. Et ça ne relève pas seulement de la technicité, quoi. Vive la politique, merde. Assumons d'avoir des débats politiques. C'est très bien les débats politiques. Aux USA, ils ont vraiment rien. Si, 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 il y a un truc minimum aux USA qui existe quand même. Il y a un système. Alors, je ne sais pas si c'est pour tous les salariés ou dans quelle mesure et tout, mais il y a quand même un système de retraite publique qui existe avec des cotisations obligatoires. Obamacare? Non, l'Obamacare, c'est pour la santé. C'est pas l'assurance vieillesse. Mais si le système des retraites change tous les 5 ans, c'est pas ouf. Ça dépend dans quelle direction il change. Si c'est pour l'améliorer, moi ça me va, hein. Plus régulièrement. C'est. Voilà. Obamacare est en train d'être révoqué par Trump de toute façon. Oui, mais dès son premier mandat, Trump avait considérablement limité l'Obamacare. L'améliorer par rapport à qui, quoi? Ah bah justement, non mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. C'est bien la question. C'est bien la question. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer le système de retraite? Qui parle? Selon quel point de vue? Non, je suis d'accord avec toi. Dans quel monde capitaliste vit-on? J'aime bien cette expression. Elle est marrante. Tu peux dire à ton voisin d'arrêter de percer chez moi aussi. Ah merde, toi aussi t'as une perceuse? Terrible, absolument terrible. Ah, il y a une crise chez les écolos, apparemment. J'ai un article du Monde qui dit qu'apparemment ça gueule en interne. Ouh là là, les écolos. Parce qu'il y a un congrès en avril, hein. Il y a un congrès en avril et apparemment ça gueule. Marine Tondelier, la médiatique chef des écologistes, affronte un début de crise interne. La secrétaire nationale se voit reprocher sa gestion de l'affaire Julien Bayou, finalement blanchie par la justice. Certains l'accusent par ailleurs de verrouiller le parti en tentant d'écarter de potentiels rivaux. Oh là là! Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces partis politiques avec de la démocratie, là? Sourire aux lèvres et carnet de notes à la main, Marine Tondelier prend la pause devant Houpette, désignée vache égérie 2025 du Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, entourée de l'éleveur et députée de la Charente-Maritime Benoît Biteau et de la maire de Strasbourg Jeanne Barzéguian. La secrétaire nationale des écologistes est venue mardi 25 février convaincre les agriculteurs qu'elle n'était pas leur ennemie. J'entends parfois que nous serions de doux rêveurs dans l'utopie, c'est faux, assène-t-elle devant une forêt de caméras. Regardez ces houppettes, la vache, ces houppettes. Gros mignon. Berzéguian, Benoît Biteau, tout ça. Changement d'époque. Il y a un an, la chef des écolos traversait le salon incognito dans l'indifférence générale. Cette fois, les visiteurs reconnaissent son inamovible veste verte et sortent leur téléphone pour l'immortaliser, accroupi, un chevreau sur les genoux. Un chevreau! Putain, je me disais, un chevreau, c'est lourd quand même, hein. Mais, derrière sa bonne humeur teintée de volontarisme, la conseillère municipale d'opposition d'Hénin-Beaumont, une ville du Pas-de-Calais où est implantée la leader du Rassemblement national Marine Le Pen, traverse une période de turbulence. Tout d'abord, l'affaire Julien Bayou, du nom de son prédécesseur à la tête du parti, continue de la poursuivre. Le 19 février, la justice a classé sans suite, pour absence d'infraction, la plainte pour harcèlement et abus de faiblesse de l'ex-compagne de Julien Bayou qui accusait ce dernier de violence psychologique. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été triplement innocenté, a réagi l'intéressé en référence à deux enquêtes internes du parti et à l'enquête judiciaire. Eh oui, cette issue juridique est loin d'avoir clos un épineux dossier qui empoisonne la vie du mouvement depuis 3 ans. Lundi 24 février, un groupe de 450 sympathisants des 3e et 10e arrondissements de Paris a ainsi adressé à la direction une lettre demandant la réparation de l'injustice faite à l'ex-député de Paris. Ses soutiens espéraient que le bureau exécutif affirme clairement l'innocence de M. Bayou et lui formule des excuses. Il fustigeait ainsi le communiqué publié samedi 22 février qui se contentait de regretter les souffrances de toutes les personnes concernées et les conséquences négatives sur la vie de Julien Bayou. Ah. Le texte évitait soigneusement de reconnaître les erreurs de la formation politique et de réhabiliter l'accusé. Membre du bureau exécutif, Hélène Hardy a préféré claquer la porte de la direction. Dans la boucle politique, cette militante historique de l'écologie politique avait demandé à ceux qui ont chargé la barque de l'élu, Julien Bayou, de procéder à leur examen de conscience. Certains ont cru protéger le parti, mais n'ont pas protégé nos valeurs, a-t-elle estimé. Ah ouais, ça fait des remous en interne, l'affaire Bayou. Je n'ai pas été dans un rôle simple, s'est défendue Marine Tondelier mardi sur France Info, jugeant qu'il aurait été impossible de bien faire. La chef de file des écologistes a évité de prendre parti alors deux camps se sont affrontés. Ceux qui estimaient que les Verts devraient faire leur mea culpa à l'égard d'un cadre dont la carrière politique a été brisée, et une frange qui considère que seule la voix des femmes compte, peu importe les conséquences. C'est un peu caricatural de le résumer comme ça, mais pourquoi pas. La députée de Paris, Sandrine Rousseau, qui avait nourri médiatiquement les accusations contre Julien Bayou, a ainsi maintenu ses positions. Je vous crois, a-t-elle écrit sur le réseau Blue Sky, en forme de provocation, avant de détailler son résumé dans un texte plus long. Son raisonnement, dans un texte plus long. C'est en réalité le caractère supposé séducteur de l'ex-militant de génération précaire, Julien Bayou toujours, qui, selon elle, pose problème. Ainsi, il serait symptomatique du mécanisme caractéristique de la domination sexiste en contradiction avec nos valeurs féministes. Ouais, pas simple, hein. Pas simple. Une rhétorique qui demanderait d'ouvrir un débat sur les règles de comportement d'un dirigeant de parti, mais qui condamne dans l'immédiat l'ancien secrétaire national. À l'opposé, Hélène Hardy avait l'intention de mettre sur la table l'ultra-féminisme qui a, selon elle, inhibé la parole au sein des Verts tout au long de cette affaire. Je voulais parler de l'intolérance à gauche qui ne supporte pas les discours différents, défend-elle. Sujet sensible, ça aussi. Alors que l'affaire Bayou n'est pas terminée, un autre front s'ouvre pour Marine Tondelier. Ah, autre sujet. Il a été innocenté ou non lieu? Bah, l'enquête interne du parti a estimé qu'il n'y avait pas de comportement répréhensible de la part de Julien Bayou. Et c'est la troisième enquête en comptant l'affaire, l'enquête judiciaire qui, selon Julien Bayou, l'innocente. Alors que l'affaire Bayou n'est pas terminée, un autre front s'ouvre pour Marine Tondelier. Même si la candidature au poste de secrétaire national au Congrès du mois d'avril n'est pas menacée, la chef de file des écologistes est de plus en plus contestée en interne. Épisode le plus révélateur, l'affrontement qu'il oppose depuis quelques jours au maire de Grenoble, Éric Piolle, pourtant l'un de ses proches, dont elle fut la directrice de campagne à la primaire écologiste de 2021. Oui, c'est vrai. Éric Piolle, qui s'est même pas retrouvé au second tour alors qu'il était donné parmi les principaux contempteurs de Yannick Jadot. Il y a quelques jours, elle a purement et simplement exclu les deals de certaines boucles de discussion de sa motion pour le Congrès. Le collectif s'appelle cette boucle. Je suis pas dans la boucle, moi. En même temps, j'ai rien à y foutre, donc tant mieux. Le crime du Grenoblois ? Avoir fait savoir qu'il souhaitait devenir porte-parole du parti, même si sa candidature n'a pas été retenue par le courant de Marine Tondelier, qui lui a préféré un représentant de la ruralité, médiatiquement inconnu, Guillaume Hédouin. Ah oui, c'est moche. Ah non, c'est pas ouf, ça. T'as viré Éric Piolle pour foutre un inconnu à sa place, et Éric Piolle dit qu'il se maintient à la candidature pour le poste. La passe d'armes continue. Le maire de Grenoble a de nouveau écrit aux militants, réitérant son envie de représenter les Verts. Tout en assurant Marine Tondelier de son soutien, il assume aussi des divergences stratégiques avec elle, notamment sur le rôle du parti qui, selon lui, doit dépasser sa fonction de lanceur d'alerte et assumer d'être un parti voulant gouverner. Là, franchement, c'est epsilonien comme divergence avec Marine Tondelier. Je l'ai toujours entendu dire plus ou moins ça. Alors après, franchement, on est sur des pouillèmes de nuances, de tendances. Ouais, bon. Non, peut-être. Non, j'en sais. Écoute, je sais pas. Bon, d'accord. Est-ce que cette parole libre et dissonante qui a déplu à Marine Tondelier, cette dernière est soupçonnée de vouloir verrouiller la formation politique alors qu'elle est l'une des seules figures médiatiques ? Il lui est également reproché d'être intervenu récemment pour empêcher les parlementaires de briguer le poste de porte-parole sous couvert d'éviter le cumul des mandats. Une déception pour la sénatrice des Français à l'étranger, Mélanie Vogel, qui convoitait le poste. Oh non, Mélanie Vogel ! Oh non, mais on l'aime bien, Mélanie Vogel ! Ah non, en même temps, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Vous là, vous, et je vous connais, hein, vous là, vous qui êtes plutôt contre le cumul des mandats, quand il s'agit de François Bayrou, tout ça. Non, mais très bien. Qu'est-ce que vous pensez du fait de cumuler un mandat de parlementaire avec une fonction au sein du parti, genre porte-parole ? Hein ? Alors ? Ça va ? Ça va, c'est en interne, rien à voir. C'est juste normal. Ok. Non, mais d'accord. Non, mais... Ok. Quelles sont les rémunérations de porte-parole ? Ah bah, que dalle, c'est bénévole, hein. Il n'y a pas de rémunération. Hein. C'est walou. Non, mais d'accord. Non, mais très bien. Donc, il accumule des mandats et cumule des mandats, quoi. Ça dépend, faut voir. C'est payé en visibilité. Oui, voilà, c'est ça. C'est payé en visibilité. Bon, bah visiblement, chez les écolos, ils se posent la question. De se dire, mais attends, on est contre le cumul des mandats. Il faut que ça circule un peu. Il ne faut pas que les postes soient réservés à des gens qui sont déjà en poste ailleurs. Donc les porte-paroles doivent être des gens c'est un débat interne, hein. C'est un débat interne intéressant. Dans quel parti écarte-t-on les gens qui pèsent ? S'interroge de son côté le député de l'Isère, Jérémy Yordanov. L'élu se plaint, comme Karim Adeli, Sandrine Rousseau ou Claire Desmarres, membre de motion rivale de celle de Marine Tondelier, de l'organisation de ce congrès perçu comme bafouant les règles démocratiques internes. Ça, je sais pas. C'est possible. Mélanie Vogel ne sera pas porte-parole des écologistes, quand même dommage. Merde. Ça, c'est mon estimation à moi de l'extérieur. Hein. À 2 ans de l'élection présidentielle, les interrogations surgissent. également autour des ambitions de la secrétaire nationale devenue une figure populaire à gauche. Pour les Verts, qui ont un énorme problème d'incarnation, elle est un espoir pour la présidentielle, juge le politiste Jean-Yves Dormagen. Pour l'instant, Madame Tontelier ne se dévoile pas. D'autres le font pour elle. Elle peut faire partie des personnalités qui rassemblent dans le cadre d'une candidature commune à gauche pour la présidentielle, estime Aïssa Galmi. L'un de ses soutiens est membre du comité exécutif. À condition de ne pas être parasité par des rivaux comme Éric Piolle, qui vantait encore récemment sa capacité à exercer le pouvoir. Dans sa dernière missive, l'édile a tenté de rassurer en souhaitant voir émerger une femme à l'élection suprême. Marine Tondelier, candidate à une hypothétique primaire à gauche ? Primaire sans LFI? Bah, pour l'instant, LFI s'exclut de même de cette hypothétique primaire. Une primaire avec qui dedans, ELV? Bah, non, si on imagine une primaire avec les communistes, les écologistes et les socialistes. Je sais pas si Marine Tondelier est susceptible de... Les socialistes, vraiment? Ah bah, les socialistes, aux dernières nouvelles, continuent à vouloir une candidature commune à gauche, hein. Le PS qui se rangerait derrière les Verts, j'ai du mal à le croire. Moi aussi. Surtout pour une présidentielle. Après, si c'est les résultats de la primaire, les socialistes sont bien obligés d'accepter, hein. Le PS n'est plus de gauche, ils ont viré au fascisme. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais. C'est dur quand même. Mais du coup, pourquoi les insoumis, ils ont voté la motion de censure du PS? Ils ont vo... Oh, les insoumis ont voté un texte fasciste? C'est dur pour eux. Je te trouve dur avec eux. Primaire dans chaque groupe du feu NFP, into primaire des gagnants, et voilà. Tu penses? Je sais pas. Je suis pas trop pour le concept des primaires, ça donne l'impression d'une élection à 3 tours. Ah bah quand ça marche, une primaire, ça fait le café. Quand ça marche pas, par contre, ça sert à rien. Bah, ça a toujours été le cas d'ailleurs. Primaire globale avec Lucie Castel gagnante. Je suis sûr que Lucie Castel pourrait gagner une primaire à gauche. T'imagines si on se retrouve au premier tour de la présidentielle avec une candidature Jean-Luc Mélenchon et une candidature Lucie Castet à côté? Il y en a qui vont avoir du mal à faire un choix, hein. Je peux comprendre. La question du corps électoral de la primaire se pose, c'est compliqué. Ah bah vote qui veut, hein, c'est le principe d'une primaire. Là, pour le coup, vote qui veut. Le tirage au sort est impartial. Ouais. C'est précisément pour ça qu'on fait des primaires et pas des tirages au sort. Est-ce qu'on préfère la partialité? Je pense, hein. Mélenchon ne fera jamais l'unanimité à gauche. Non, mais François Hollande non plus, hein. Ne fera jamais l'unanimité à gauche. Enfin, tu vois, c'est pas. Est-ce qu'il existe une possibilité d'une unanimité à gauche sur une personnalité à l'occasion d'une élection comme l'élection présidentielle? J'en suis pas sûr. C'est que pour le coup, et là je reprends complètement les arguments de la France insoumise, qui dit que c'est très bien d'avoir plein de candidatures à gauche. C'est pas grave, ça a toujours été le cas. À chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, elle est arrivée à l'occasion d'élections dans lesquelles il y avait d'autres candidats de gauche. Donc, quand François Mitterrand a gagné en 81, il y avait le Parti communiste qui était candidat. Dans ce cas, il faut arrêter que LFI se plaigne que les autres partis leur volent des voix. Non mais. LFI, ils sont un parti politique comme les autres, hein. Je veux dire, ils changent de point de vue en fonction des élections, du contexte. Parfois, l'unité à gauche est nécessaire, parfois, c'est pas un obstacle. Tu vois, c'est pas. Ils ont ni raison ni tort, hein. Franchement, ça change en fonction des élections. La gauche ne gagnera plus jamais en France. Je sais pas, on se donne rendez-vous dans 40 ans et on en reparle? Je sais pas. Je viens du futur, c'est Asselineau qui a gagné. Article 40. Donc. Non, je sais pas, franchement, on verra le scénario. Je pense que ça va être dur pour le PS, les écolos et les communistes de se mettre d'accord sur des modalités de présidentielle en commun. En même temps. En fait, ça va beaucoup dépendre des municipales. Enfin, ça va beaucoup dépendre. Ça va en partie dépendre des municipales, déjà des dynamiques de vote, c'est important. Mais au-delà de ça, des capacités qu'auront ces trois partis-là à faire alliance dans des mairies, quoi. Je suis zémoriste et la gauche lepéniste va gagner en 2027. Oui, c'est vrai, ça dépend de ce qu'on appelle la gauche. L'alliance est déjà annoncée à Lyon. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'à mon avis, dans pas mal d'exécutifs municipaux dans lesquels ça va être conduit, c'est pareil à Paris. À Paris, je pense que les écolos, les socialistes et les communistes vont trouver un accord et vont y retourner ensemble. Je pense. Ça va dépendre des congrès ELV et PS. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend aussi de la capacité à Marine Tondelier à imposer sa ligne au sein du parti écologiste. Ça dépend des socialistes et de la capacité d'Olivier Faure à se maintenir. Après, je vous rappelle quand même que Fabien Roussel, il est sur une ligne autonomiste depuis le début. Il a même remporté le parti pour ça. Donc il y a quand même un scénario dans lequel Fabien Roussel maintient sa candidature à la présidentielle, coûte que coûte, et fait pas alliance avant ça, quoi. Les résultats des municipales auront vraiment un impact sur les présidentielles, perso, je vois pas comment. Ça dépend des résultats. Putain. Ma réponse est à chier, mais ça dépend des résultats à la présidence. Ça dépend des résultats à la municipale. Si t'as un raz-de-marée Rassemblement National, par exemple, mettons, prenez un scénario noir pour la gauche, qui consisterait à avoir un raz-de-marée Rassemblement National au municipal. Des centaines et des centaines de mairies, y compris des mairies de villes moyennes, qui tombent dans l'escarcelle du Rassemblement National. Peut-être que ça va faire bouger les lignes à gauche. Peut-être que là, tout le monde voit arriver gros comme une maison, un tsunami. Le péniste en passe de remporter l'élection, quoi. Donc ça va peut-être faire bouger les lignes. Je sais pas. Il y a quand même des scénarios dans lesquels ça bouge, tu vois. Je pense. Rien ne fera bouger LFI. Bah ça, c'est pas vrai. Dans l'histoire, ils ont déjà bougé. Donc, bon. Ils mourront comme les autres s'ils bougent pas, c'est tout. J'en sais rien, pas forcément d'ailleurs. La France Insoumise est un parti qui, pour le coup, réalise d'assez bons scores aux élections présidentielles. Probablement l'élection, la seule élection d'ailleurs dans laquelle ils réalisent des bons scores. Sur une ligne autonome en tout cas. Donc, ils auraient tort de s'en passer. Pour moi, Montebourg pourrait unifier la gauche vraiment. Oui. Législative aussi. LFI sans le PS, ça marche pas très fort hein, aux législatives. On l'a vu en 2017, c'était pas dingue. Après, la NUPES et le NFP ont changé la donne. Et c'était un enrichissement mutuel pour tout le monde. Hein. C'est pas spécifique à LFI. Pour LFI, est-ce qu'on sait s'il y aura une primaire? Si je rappelle bien, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé que c'était ses dernières présidentielles. Alors, non, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais annoncé que c'était ses dernières élections présidentielles en 2022. Jean-Luc Mélenchon est très bien positionné pour être à nouveau candidat pour la prochaine élection présidentielle. D'une part, d'autre part, il n'y aura pas de primaire au sein de la France insoumise. Jusqu'à présent, tous les dirigeants de la France insoumise qui se sont exprimés sur son sujet ont exprimé leur rejet des primaires. Du principe même d'une primaire. Jean-Luc Mélenchon lui-même a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'y aurait pas de primaire, jamais il ne participera à une primaire, en aucun cas, etc. Bon, après, il dit jamais, mais ça peut changer, mais donc voilà, non, 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 il n'y aura pas de primaire au sein de la France insoumise. On n'avait pas dit qu'il passait le relais. En l'état actuel des choses, si Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut être remplacé, alors c'est pas le premier politique à faire le coup de je souhaite être remplacé, il faut trouver quelqu'un d'autre que moi, etc. Mais qui en réalité reste à la barre. On a déjà parlé effectivement de la succession de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a qui parlent de Mathilde Panot, Clémence Guettet, Emmanuel Bompard comme des potentiels repreneurs derrière. Mais à partir du moment où la France insoumise s'est engagée dans un processus de censure systématique des gouvernements et de destitution du président de la République, ils assument assez rapidement de dire qu'il faut déclencher une nouvelle élection présidentielle. Et personne ne voit quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon comme candidat d'une future élection présidentielle pour la France insoumise. Devient quoi, Ruffin? Ruffin n'est plus à la France insoumise, hein, il est autonome, indé. Freelance, c'est ça. Sais pas. C'est une bonne question. Où est-ce qu'il qu'est-ce qu'il va faire François Ruffin? Selon moi, erreur de sa part, il aurait pu faire le putsch chez LFI. Faire un putsch, ça s'improvise pas, hein. Il faut avoir des troupes, si je puis dire. Il faut avoir des... Au sein du bureau exécutif. Je sais pas, ça me paraît... Ouais, non. Il a clairement la volonté de se présenter, mais quid de son espace politique, c'est difficile à dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pas évident, François Ruffin. Là, tout de suite, demain, qui il arrive à rassembler autour de lui? Une partie des insoumis, une partie des communistes, une partie des socialistes, enfin, des électeurs en tout cas. Les LFI et PS déçus, ça peut être beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Sa seule chance, c'est une primaire à gauche. Mais même dans une primaire à gauche, je ne sais pas si François Ruffin, il cartonne. Hein. Je sais pas, c'est pas dit, c'est pas fait, c'est pas évident. Tu rends pas, ouais. En même temps, je réfléchis et je me demande qui à gauche cartonne dans une primaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personnalité, hors LFI en tout cas, qui est susceptible d'obtenir l'adhésion massive à gauche? Ouais, tu vois, on parlait tout à l'heure de Castet. Castet, Lucie Castet. Et Et en même temps, ce qui est intéressant avec les primaires, c'est que je vous rappelle que c'est toujours surprenant les résultats d'une primaire. Y a des surprises dans les primaires, hein. 2006, Ségolène Royal. Le hold-up de l'extérieur. 2012, François Hollande. Pardon. 2012, François Hollande. Personne l'attendait. Fillon 2017. Fillon 2017. Valérie Pécresse 2020. 2021. Valérie Pécresse. C'était pas la plus attendue, hein. C'était pas évident qu'elle allait incarner le parti pour l'élection présidentielle. La primaire des écolos en 2022, Sandrine Rousseau se qualifie au second tour. C'était pas évident, hein. Honnêtement, je ne pense pas qu'une femme puisse finir présidente de France. Trop de gens reviennent en arrière sur la situation de la femme et des minorités. Candidat, oui, mais pas président. On risque d'être surpris, toi et moi. Malheureusement. Et à mon avis, de tirer un peu la tronche. Royal a perdu parce que c'était une femme, ça fait perdre des points, de là à pas pouvoir gagner. Je sais pas, j'ai jamais été très fan de l'analyse de Ségolène Royal qui disait que c'est parce que c'est une femme qu'elle a pas gagné. Elle a aussi été battue à la régulière par un Nicolas Sarkozy qui a fait une campagne bulldozer extrêmement efficace. Hillary Clinton aussi, hein, bah oui, face à Trump. Donc, ça peut jouer pour un certain nombre d'électeurs, peut-être. Mais à mon avis, faut regarder ça d'un peu plus près, faut objectiver. Je suis pas persuadé que ce soit le seul élément déterminant. D'autant que Ségolène Royal a perdu l'élection présidentielle, certes, mais elle n'a pas été humiliée non plus. Elle a fait un score raisonnable. Il y a quand même des millions d'électeurs qui ont voté pour elle au second tour. Pas suffisamment, certes, mais c'est pas non plus zéro, quoi. Cinquante-trois, 47. Ouais, elle a fait 47%, Ségolène Royal. C'est une défaite, certainement, mais c'est pas non plus Walou, quoi. Donc bon. Pour elle ou contre Sarkozy? Ah bah ça, on sait pas, on fait pas le tri. Hein. C'est des bulletins dans les urnes. Elle a dû oublier son discours nul du soir du premier tour en 2007. Elle avait dit quoi? Le soir du premier tour? Je me souviens plus. Je me souviens que le soir du second tour, quand elle a perdu la présidentielle, rue de Solferino à Paris, là où était le siège du Parti socialiste, elle s'est adressée à la foule en disant qu'il fallait rester unis et qu'ensemble, on irait vers de nouvelles victoires. C'était très bizarre. Beaucoup de journalistes aussi ont bugué en disant qu'est-ce qu'a dit? C'est ouais. En soi, la gauche a gagné derrière. Ah bah 5 ans plus tard, en 2012, oui, mais en 2007, la gauche a perdu. Hein, donc annoncer le soir de ta défaite que tu te félicites d'une victoire, c'est quand même particulier. Bon, c'était visiblement une erreur de sa part, mais après, elle n'a pas réussi à prendre le congrès du parti l'année suivante, en 2008. Congrès de 2008, bon, ouais, bah c'était la guerre, hein. C'était Aubry contre Royal. Après, entre Marine et Ségou, on a quand même eu des femmes au second tour sur les dernières décennies, donc l'argument antiféministe, j'ai du mal. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'à chaque fois c'est un homme qui gagne que c'est du que c'est de la misogynie, tu vois. Mais aucune n'a été élue, tous misogynes dans ce pays. Bah ouais, non, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Non, il y avait. C'était quoi le. Vous avez vu le sondage aux États-Unis, pardon, en Allemagne, le vote en Allemagne des jeunes femmes et des jeunes hommes, le gender gap qu'il y a, où tu vois qu'il y a à peu près une jeune femme sur trois qui a voté à gauche, Die Linke, à l'élection, et que les jeunes mecs ont largement voté pour l'AFD. Ce sont des stats, hein, c'est pas des. Voilà, c'est pas mécanique, mais. Mais c'est très impressionnant. C'est ce qu'on appelle, alors pour ceux qui l'ont jamais entendu, ce qu'on appelle le gender gap, qui est présent notamment chez les jeunes, et qui est une tendance de fond qu'on constate dans beaucoup de pays développés, hein. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Canada, etc., on constate que les jeunes hommes ont statistiquement tendance à être de plus en plus misogynes, conservateurs, et les jeunes femmes ont tendance à être de plus en plus féministes, progressistes. Et c'est assez impressionnant. C'est hyper polarisé. Le pire gender gap, c'est en Corée du Sud, je crois. J'en avais entendu parler, ouais, en Corée du Sud. C'est que chez les jeunes. Je sais pas si c'est que chez les jeunes. Je sais en tout cas que c'est très marqué chez les jeunes. Donc ouais. C'est pas une mécanique, attention, hein, c'est pas un truc universel, c'est pas un truc automatique, etc. Il y a aux États-Unis beaucoup de femmes qui ont voté Trump. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut pas dire que les femmes désertent la droite et l'extrême droite, ou qu'il n'y a plus d'hommes qui votent à gauche. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais en termes de tendance sur les scrutins exprimés. Jeune femme citadine versus vieux mec rural aux élections allemandes, par exemple. Ouais, ça c'est vrai. C'est le féminisme qui rend la misogynie. Je crois que t'as pas fini ta phrase, hein. Parce que je vois pas ce que le féminisme. Non, je pense pas. Attendez, je vais éternuer. À ah, mes souhaits. Par exemple, le genre de phrase "la femme a toujours raison" des écologistes, je pense vraiment que ça peut créer pas mal de réacs. Alors, personne n'a jamais dit "la femme a toujours raison". Tu confonds avec une autre phrase qui est "je vous crois". "Je vous crois" est une phrase effectivement prononcée par beaucoup de militantes féministes qui s'adressent aux victimes de violences sexuelles et sexistes en leur disant qu'à partir de maintenant, la parole des victimes va être crue et ne va plus être systématiquement contestée comme c'était le cas par le passé. Mais c'est intéressant parce que l'exemple que tu donnes, c'est justement l'exemple de déformation qu'on peut retrouver dans des argumentaires qui consistent à vraiment diaboliser l'adversaire en disant oui, mais vous pensez que. C'est exactement comme l'islamo-gauchisme ou des trucs comme ça. Oui, mais vous soutenez les terroristes. Absolument pas, jamais, à aucun moment. Tu vois, c'est. Mais effectivement, ce sont des notions qui ont un effet sur l'élection. Vous vous souvenez, c'était un papier de Patrick Cohen sur France Inter après l'élection de Kamala Harris, l'élection de Donald Trump, pardon, excusez-moi, sur le cas de Kamala Harris, où une étude avait été réalisée auprès des électeurs américains, notamment des électeurs indécis, pour leur demander, après l'élection, pourquoi n'avez-vous pas voté pour Kamala Harris? Qu'est-ce que vous reprochez à Kamala Harris? Et la majorité des Américains qui répondaient disaient, parce qu'elle a fait une campagne trop woke. Il y avait trop de wokisme dans la campagne de Kamala Harris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde bien la campagne de Kamala Harris, elle n'a absolument pas parlé de sujet woke pendant toute sa campagne. Kamala Harris n'a pas du tout fait une campagne sur le thème du wokisme. En gros, elle a parlé de pouvoir d'achat, de chômage, inégalité, machin. Mais comme Donald Trump et ses partisans en ont fait des caisses pendant toute la campagne, accusant Kamala Harris d'être une woke, et vas-y les transgenres, et vas-y les toilettes mixtes, et vas-y, enfin, pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et bah ça a eu un effet sur les électeurs, même les indécis, qui ont eux-mêmes fini par se dire, ouais, non, elle est trop woke, elle est trop woke, c'est pas mon truc. Alors qu'elle en a pas parlé du tout. C'est impressionnant quand même. C'est intéressant l'effet que ça peut avoir sur les gens, le fait de marteler des trucs comme ça. Donc la méta, c'est de mentir en boucle. C'est pas forcément mentir, mais au demeurant, ça a toujours été la méta, hein, de surexagérer sur les éléments de fragilisation de ton adversaire, de diaboliser ton adversaire. Hein, c'est historique, hein, ça a toujours été ça. Balancer de la merde sur l'opposant jusqu'à ce que tout le monde le répète. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est vraiment ça. Ils n'écoutent que les opinions qui valident la leur. Bah, comme tout le monde. Bah, comme beaucoup de gens, en tout cas. Les fameuses bulles de filtre. Au bout d'un moment, à force de n'entendre que des propos avec lesquels je suis d'accord, je finis par me dire que j'ai quand même raison de penser ce que je pense. Quand même. J'ai bien regardé, j'ai bien écouté. Il semblerait que je sois quand même plutôt dans le vrai. Bizarrement, j'entends que des conneries à longueur d'année, ça doit être pour ça que je suis pas d'accord avec grand monde. Le fameux biais de confirmation qui me fait vomir quand j'entends les politiques dire tous les gens disent que, et non, tu n'as retenu que ceux qui disaient que tu voulais entendre. Voire tu as déformé leurs propos pour les entendre ce que tu voulais. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une chaîne TikTok d'un mec qui demande à des pro-Trump pourquoi ils ont voté Trump. Il n'y en a aucun capable de citer une mesure à part des trucs généraux du genre Deport Alliance. Ouais, je sais, c'est la technique du micro-trottoir. De vous à moi, hein. Bon, ça a toujours été marrant, ce genre de truc, mais surtout ça existe dans tous les partis. Je vous rappelle que le petit journal de Yann Barthès, puis Quotidien, en a fait son miel à chaque élection présidentielle. Il se ramène avec un micro dans les couloirs du meeting de tel candidat, quel que soit le parti, et ils tendent leur micro aux gens pour leur demander pourquoi vous votez pour lui, etc. Et en général, t'as des formules, t'as des gens un peu débiles, t'as des formules un peu rapides, des trucs un peu... Bon, voilà, c'est vu, revu et re-revu, c'est connu. Et effectivement, c'est du sucre pour les opposants. C'est du sucre pour les opposants. On adore, c'est génial. Ah, quelle bande de cons, j'ai vraiment raison d'avoir raison. Voilà, c'est un peu l'effet que c'est censé provoquer chez vous. Et si ça le provoque, bravo, c'est réussi. Guillaume Meurice aussi. Ouais, Guillaume Meurice aussi. Pour le coup, Guillaume Meurice, il l'assume parfaitement. Lui, il a jamais prétendu que c'était représentatif de quoi que ce soit, etc. Guillaume Meurice, il assume parfaitement de retenir des personnes qui disent des dingueries dans son micro. Et en plus, il a toujours dit que c'est fou, il suffit de tendre un micro aux gens pour qu'ils disent des dingueries dedans. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Il n'est pas journaliste. Non, il n'est pas journaliste, il est humoriste. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les montages dont je vous parlais tout à l'heure de gens qui viennent à un meeting, et le micro-trottoir de Quotidien ou du Petit Journal, etc., c'est pas journaliste non plus, c'est du divertissement. C'est marrant, en fait. C'est pas censé vous informer de quoi que ce soit. C'est fait pour se moquer des gens. Bon, bah, vas-y, hein. Ça se moque quand même beaucoup plus d'un côté. Bah non, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas fait de mesure, mais je vois pas pourquoi. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de sortir une dinguerie avec un micro devant soi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Surtout quand t'es pas entraîné, hein. Enfin, c'est pas facile de parler dans un micro, t'es surpris, la première fois de ta vie que t'as un micro devant la bouche. On te pose des questions banales, tu réponds des trucs banals, t'as absolument rien préparé. Tu te fais cueillir, la question est piège. Et la question n'a même pas besoin d'être piège en fait. T'avais juste pas prévu d'être interviewé aujourd'hui. T'as absolument pas réfléchi à ce que t'allais dire. Tu te retrouves avec un mec qui a un grand sourire, qui est super avenant, qui te tend un micro en te posant une question. Tu souris mécaniquement. Vous avez remarqué à quel point les gens dans les micro-trottoirs, quand il y a une caméra qui se braque sur eux, les gens sourient immédiatement. Ben, en fait, c'est un espèce de réflexe. Il y a un objectif devant moi, je souris. Parce que t'es complètement pris au dépourvu. Donc tu veux pas passer pour un con, donc tu fais ton plus beau sourire parce que c'est un réflexe en fait, tu voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les phares, la biche, tout ça. Ouais, c'est ça. T'es pris un peu au dépourvu, t'es un peu sur la défensive, tu souris mécaniquement. Le mec te pose une question, vite, il faut que je réponde quelque chose, il faut que je réponde, il faut que je réponde, sinon je vais passer pour un imbécile. Voilà, et tu dis une connerie, enfin, tu dis ce qui te passe par la tête, là, tu dis une banalité et tout, et puis en fait, tu te trompes sur les mots que tu veux utiliser, et bon, bah voilà, ça finit, terminé, tu passes pour le roi des cons. Bon. Bah voilà. Il n'y a plus de saison. Les micro-trottoirs du 13h de TF1. Oh bah, je vois l'année dernière, dis donc, à la même date. Alors, il faisait vachement plus chaud, hein. Ça se refroidit, on dirait bien. Bon. Bah voilà, c'est juste banal, hein, c'est pour... C'est Usul qui s'est fait interviewer en pleine rue et il avait dit « J'ai dit n'importe quoi, je m'y attendais pas. » Ouais, je me souviens. Usul, il s'est fait interviewer comme ça pour un sujet d'une télé, je sais pas laquelle. Mais vraiment un truc, c'était un piéton, tu vois. C'était un piéton qui marchait, et quelqu'un qui l'attrape en lui disant « Ah, au fait, on peut vous poser une question, machin ?» Et Jules, ouais, ça, il a dit une banalité et... il savait pas quoi dire. Une histoire de mégots. Ah oui, c'était sur les mégots. C'était un sujet sur les mégots. Ouais, c'était un sujet sur les mégots, le traitement des mégots, la pollution par les mégots. Et vraiment, micro-tendu. Vous aussi, vous trouvez qu'il y a trop de mégots par terre? Ou alors vous aussi, vous jetez votre mégot par terre? Et Usul avait répondu, ouais, je dois bien avouer que moi, je les jette par terre. Parce qu'il n'y a pas toujours une poubelle à côté. Enfin, vraiment, là, sujet de base. C'était pas du troll, surtout. Non, c'était pas du troll. Non, 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 je crois pas, hein. Je jette mes mégots même quand il y a des cendriers. Oui, c'est vrai. Je confirme, hein. Non, mais chez moi, il fait ça proprement, vous inquiétez pas, tout va bien. Je passe pour le méchant, mais je refuse systématiquement quand on me parle de micro-trottoir, car peur de passer pour un stupide. Je te comprends parfaitement. Moi-même, je pense que si on me demandait, je refuserais un micro-trottoir. Non, non. Envoyez-moi un mail pour prendre rendez-vous et pour réaliser une interview proprement. Je réponds pas au micro tendu. Non, non, non. Pourquoi il n'y a pas l'émission de Backseat du 20 février sur Apple Podcast? Oh! La raison à cela, c'est qu'il n'y a pas eu d'émission Backseat le 20 février 2025. Voilà la vraie raison. Il n'y a pas non plus Backseat demain, hein. Les gens qui habitent à Paris ou en Île-de-France, dans le chat là, vous êtes là? Vendredi soir, vous faites quoi? Ce vendredi là, après-demain. Moi, je vais voir le spectacle d'Adèle. Je vais voir le spectacle d'Adèle Barbers à Paris au théâtre Le République, je crois. Je vois ça. Je vous rappelle que si vous prenez une place. Vous pouvez utiliser le code Backseat pour avoir une promo de ouf. Ah bah il y a Spidon qui commence en plus, trop bien. Ce week-end c'est Spidon, let's go. Pourquoi il n'y a pas de QAG cette semaine? Parce que c'est une semaine de suspension des travaux à l'Assemblée. Les travaux reprendront la semaine prochaine. Et donc les QAG avec. Pourquoi il n'y a pas le Backseat Nuit Américaine en replay sur YouTube? Bah si. Il est sur la chaîne YouTube, la Nuit Américaine, non? Bah si. Elle parle de quoi dans son spectacle? Bah, c'est un spectacle d'humour où elle parle un peu de politique. Bah, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Des blagues principalement. Je crois qu'on est principalement là pour la rigolade. Bon, en tout cas, c'est dans cette optique-là que j'y vais. Tu penses quoi de Varus, JG, Jean? J'aime bien le pic, mais on m'insulte quand je le prends. Je comprends, moi aussi j'aime bien Varus. Hein, je pense que ça se joue bien, c'est agréable à jouer en plus. Ouais. Tu vas aller voir celui de Clément. J'ai déjà vu celui de Clément, t'es un ouf, toi, il y a longtemps. Tu seras déçu si le physique, si le spectacle parle de physique quantique. Non, j'aimerais bien. J'avais adoré l'exoconférence d'Alexandre Astier, j'avais bien aimé. J'étais allé le voir à Paris, je m'en souviens. Bah, c'était il y a 10 ans, hein. C'était cool. Tu fais quoi si en face ça pique Katarina? Tu quittes la game. Tu vas pas passer un bon moment. Il est 15h45, les amis. En ce qui me concerne, je vais sans doute m'arrêter là. Je vous retrouve demain après-midi pour une petite FAQ en toute décontraction. Merci d'avoir été là malgré l'absence scandaleuse de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. 3 heures de stream de gens à la place de la haine, c'est quand même. Il y a quand même une défaillance du fonctionnement de nos institutions. Mais bon, le service public est toujours là sur Twitch en tout cas. On continue à assurer le taf, t'as vu. Je vous fais des bisous, les copains, merci d'être viendus. Et à demain. À voir, des bisous.